Dans le NRV La Sud ce soir, direction Lourdes. Et oui, on part en pèlerinage. Mais avant de commencer, petit tour de table avec nos invités Thierry Demézières et Alban Turlet. Vous êtes réalisateurs et les co-auteurs du film documentaire Lourdes qui sort demain en salle. Ça vous va comme présentation?
Parfait, parfait.
Très bien. Frère Franck Dubois, vous êtes dominicain, responsable des frères étudiants au couvent de Lille et vous enseignez la théologie à l'Institut catholique de Lille aussi. Ça vous va?
Presque ça. C'est à Strasbourg que ça se passe, mais c'est très bien.
Ah d'accord, bah oui, c'est quand même presque ça.
En effet.
Merci, c'est toutes les informations m'ont été données par Benoît Lagan, qui est manifestement une vision de la géographie de Lille en France très très particulière. Samuel Pruvot, vous êtes rédacteur en chef de Famille Chrétienne.
Voilà.
Ah, j'ai eu peur. Très bien, les présentations sont faites, c'est parti, générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour un pèlerinage à Lourdes ce soir en avant-première puisque c'est demain que sort en salle Lourdes, le nouveau film du duo Thierry Demézières et Alban Turlet. Après leur film sur le chorégraphe Benjamin Millepied, sur la star du porno Rocco Siffredi, cette fois, les deux pratiquants du documentaire se sont rendus à Lourdes pendant plusieurs mois pour filmer le sanctuaire, mais surtout ses pèlerins. Résultat, un film magnifique qui suit au plus près un homme atteint de la maladie de Charcot, un militaire, père de deux enfants malades, ou encore un prostitué et travesti du bois de Boulogne. Mais que viennent chercher ces gens à Lourdes? Un miracle? Pas forcément. Au moment où la petite entreprise de Lourdes, longtemps dans le rouge économiquement, semble sortir de la crise, on avait envie, avec cet enfant de cœur de Benoît Lagan, d'en savoir un peu plus sur le mystère de Lourdes. Et c'est du lourd. Tous nos invités sont là, c'est une bénédiction. Le NRV, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Oui, et donc demain sort en salle ce film qui pose, comme vous l'écrivez Samuel Pruvot dans Famille Chrétienne, un regard neuf sur les malades de Lourdes. Et si vous, Thierry Demézières, Alban Turlet, les deux réalisateurs mécréants, vous avez permis d'apporter ce regard neuf, célébré en une de tous les journaux chrétiens de France, de Pèlerin à La Croix en passant par Famille Chrétienne, c'est que votre film vise juste. D'ailleurs, comme en témoigne dans La Croix le frère Benoît, Laurent, ce n'est pas moi, c'est un dominicain. Votre regard neutre a fait émerger le spirituel. Vous avez filmé, je le cite encore, la tendresse de Lourdes. C'est d'ailleurs vous, frère Franck Dubois, qui avez déclaré à La Croix que ce film, ça criait Dieu. Mmh. Hein, c'est bien ça.
C'est ça.
Alban Turlet, Thierry Demézières.
J'ai le sens de la formule. Hein.
Ouais, c'est assez beau. Alban Turlet, Thierry Demézières, votre film a donc reçu la bénédiction des croyants et des pèlerins que vous avez suivis. Or, Lourdes, dites-vous, c'est avant tout une foule. Et il fallait donc extraire de cette foule, je vous cite, des pèlerins capables de parler de leur démarche au-delà de tout catéchisme pour que ce qu'ils disent puisse parler à des non-croyants. Et parmi ces pèlerins, vous avez notamment rencontré la communauté gitane, la communauté des gens du voyage. Il y a cet homme qui dit que, par exemple, quand il vient à Lourdes, c'est un peu comme si la Vierge Marie venait le consoler. Ou encore cette femme qui parle aussi de son pèlerinage.
Quand on a la foi, c'est vrai, on dépasse les montagnes, c'est la vérité. J'avais ma caravane qui était coupée, les cieux étaient cassés, et je suis arrivé, j'ai pleuré, je dis, il faut que j'y va quand même. Ça fait 60 ans que je viens, et je ne peux pas laisser passer ça. C'est impossible. Je vais repartir avec le cœur léger, parce que j'aurais vu Marie, et j'aurais touché le rocher.
Vous connaissez par cœur Thierry Demézières ce qu'elle dit.
Moi, j'aime bien la phrase à la fin. J'aurais vu Marie et j'aurais touché le rocher.
Et parmi les membres de la communauté de ces gens du voyage, c'est ces gitans que vous appelez vos chouchous hein, dans le dossier de présentation du film. L'un d'eux vous déclare qu'en pèlerinage, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux, tous ceux qui étaient auprès de Jésus il y a 2000 ans. C'est comme ça que vous avez pensé finalement le casting de votre film?
Non, on l'a pas pensé comme ça. On a cherché. On voulait dépasser un peu le catéchisme et avoir des chrétiens, mais qui pouvaient parler à des non-chrétiens. Parce que très souvent les chrétiens se rendent pas compte entre eux qu'ils ont des mots valises, qui nous parlent pas trop, cœur à cœur, amour du prochain, des choses comme ça. Donc on voulait des gens qui soient des éléments de langage.
ça vous fait rire,
qui ne veulent rien dire.
Et l'amour
du prochain, ça ne veut rien dire. C'est un élément de langage.
Un peu.
Après, Franck n'est pas tout à fait d'accord.
Et on voulait aussi des histoires. Assez universel. Nous, on a l'impression d'avoir fait un film vraiment sur la condition humaine, sur l'humain, et des histoires qui parlent à tout le monde, et des peines aussi différentes qu'une gamine qui se fait harceler à l'école et qui arrive à le dire, qu'un homme malade de la maladie de Charcot qui va peut-être bientôt mourir.
Comment vous avez travaillé justement dans le repérage de ces pèlerins? Ça a pris 8 mois pour le tournage.
Il y a eu 8 mois d'enquête, effectivement, ouais, avec 3 journalistes. C'est compliqué parce que les gens s'inscrivent au pèlerinage très souvent, très tard. On a contacté beaucoup de diocèses. Les critères des diocèses pour le choix de personnages sont pas forcément nos
les
critères
vôtres,
à nous,
ouais,
documentaristes.
Qu'est-ce qu'ils vous proposent?
Des gens dont les histoires feront pas forcément écho auprès du plus grand nombre, et nous on voulait des histoires singulières mais qui puissent quand même raconter quelque chose d'universel, et on voulait aussi des gens capables de le dire face caméra, ce qui est pas forcément une mince affaire quand on n'a jamais tourné dans un film.
Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, justement, sur Lourdes, sur les malades de Lourdes qui sont revisités par ce cinéma, Samuel Pruvot?
En fait, c'est ça, j'allais dire, sans jeu de mots, le miracle. C'est que pour le public catholique, c'est même pire qu'un marronnier. Un marronnier dans la profession, c'est les choses qui reviennent.
Ah bah oui.
Bah, par exemple, je sais pas, les œuvres de Pâques, le
pèlerinage de Lourdes.
Pèlerinage de Lourdes. Donc, c'est l'objet le plus dur à renouveler. Parce qu'on le dit, bon, on l'a fait 10 fois. Bon, nous, notre journal existe depuis près de 40 ans. Ça fait 40 fois qu'on le fait. Mais là, Lourdes, c'est pas 40 fois, c'est 40 000 fois. Et du coup, je pense que c'est ça qu'ils apportent. C'est une nouveauté. On l'a vu, mais on l'avait pas vu comme eux.
Et qu'est-ce que vous avez vu que vous n'aviez pas
alors,
vu avant?
Pour moi, ce qui m'a le plus frappé, ça a été dit d'ailleurs par cette gitane tout à l'heure, à Lourdes, on vient toucher. À Lourdes, c'est d'abord les corps. En fait, ce documentaire nous montre comment les corps sont touchés, consolés, accompagnés. On voit les pèlerins qui...
Et dès le départ, ça commence sur, justement, une chorégraphie du toucher, justement, les
et donc,
plans.
Du coup, moi, ce qui m'a d'abord frappé, et pourtant, Dieu sait si j'ai fait ce pèlerinage à Lourdes, même si c'est professionnellement avec les évêques, donc c'est pas toujours très rock'n'roll avec les évêques de France, mais c'est déjà, c'est pas les gitans, hein, ils ont pas tous le look gitan. Cependant, j'avais pas assez vu cette chose que j'avais peut-être vue une seule fois dans mon existence, c'est quand j'avais accompagné effectivement ma grand-mère qui voulait depuis toujours y aller, que je l'accompagne. J'étais grand adolescent et je me souviens effectivement dans ce train, ce qui m'avait marqué, c'est que toute cette affaire, le secret de cette affaire, c'est pas les Saintes Vierges qui clignotent ou en plastique, ça, je veux dire, c'est l'écorce et toute l'intelligence, et je pense que c'est la dignité de votre métier finalement d'artiste, c'est que vous êtes passé très 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 vite sur l'écorce, sur le papier cadeau. Vous nous avez enlevé le papier cadeau de Lourdes et vous avez dit, ben, voilà ce que nous, on a trouvé. Honnêtement, on n'a pas triché. Et en fait, sincèrement, j'allais dire, ça, si pour parler jeune, ça dégage. Parce qu'on voit cette universalité de la souffrance qui parle à tout homme. Il n'y a pas besoin d'aller à la messe le dimanche pour comprendre ça.
Il n'y a plus un jeune qui dit ça dégage. Hein. À part les enfants de Nolagan qui sont vieux avant l'âge.
Oh ouais, merci pour les enfants.
Frère Franck Dubois, et vous, qu'est-ce que vous avez vu dans ce documentaire, dans ce film?
Ça dégage, je pense que ça dépouille. Alors, je vais employer les mots valises, mais il faut les déposer. C'est un film qui dépouille ceux qui regardent, y compris qui sont habitués à regarder ce lieu, comme moi, vous imaginez le frère dominicain de Basse qui y va depuis 17 ans que je suis rentré dans l'ordre, qui dépouille le langage. Et du coup, voilà, on retrouve des mots nouveaux pour parler d'une affaire très ancienne, parce qu'en fait, il y a très peu de... Le langage, c'est la caméra, c'est votre regard, et c'est très peu de mots. C'est un film où on parle peu, et à mon avis, les scènes d'ailleurs les plus explicites qui parlent le plus sont les scènes où on ne parle pas, mais l'image parle d'elle-même. Et si on a le droit de faire de la théologie sur France Inter à 23h,
j'espère bien.
C'est un film, en fait, qui fait parler l'invisible par le visible. Et ça, je voulais le placer, donc je le place maintenant, c'est ce qu'on appelle un sacrement. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est une réalité visible qui nous fait voir une réalité invisible. Bah, c'est votre film. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il criait Dieu, parce que c'est ça. Vous filmez l'invisible avec les corps.
Thierry de Maizière.
Et par les corps.
Alors, moi, je prends visible-invisible.
J'ai bien compris.
Pour deux raisons. Un, on a filmé des invisibles. C'est que les gens qu'on filme sont des gens qu'on voit jamais.
Jamais.
Nulle part. Voilà. L'autre chose, on a filmé l'invisible, c'est la foi. Et donc, nous qui n'avons pas la foi, on a essayé de filmer à la fois à travers le un peu le mystère, le secret de la prière, puisqu'ils ont accepté de nous murmurer leur prière, mais aussi on a filmé donc nous des regards, en particulier le film se termine par un regard qu'on trouve nous incroyable, qui est celui de Jean après le passage dans les piscines.
Il faut dire qui donc, est Jean qui est atteint de la maladie de Charcot.
Oui, voilà, maladie de Charcot. Donc les catholiques nous parlent d'immanence, de transcendance. Nous, on est plus modestes, on voit une sorte de plénitude incroyable chez cet homme-là à ce moment-là, et Alban est là à ce moment-là et au bon moment et capte cette image-là.
Juste une question par rapport aux a priori qu'on peut avoir quand on parle de Lourdes. Est-ce que vous en aviez, avant d'en partir, quelle image vous aviez de Lourdes?
La carte postale.
Ouais, la carte postale. La carte postale, la Vierge qui
clignote, la rue Marchande. Voilà, effectivement, on parlait de marronnier tout à l'heure. C'est en gros ce qu'on a à peu près une fois par an aussi dans les journaux, la rue Marchande. Et on a trouvé assez vite avec Thierry que c'était un non-sujet. En tout cas, qu'on n'avait pas besoin d'aller au cinéma pour voir ça. Donc, on est arrivé effectivement avec, et puis le miracle surtout. Et d'ailleurs, quand on en parlait à nos copains, le premier mot qui vient quand on leur dit on va tourner à Lourdes, c'est « Ah, est-ce que vous allez filmer un miracle ?» Or, on s'aperçoit que la plupart des pèlerins viennent pour tout, sauf pour ça.
Mais ce qui explique pour...
Alors, ils viennent pour quoi, s'ils ne viennent pas pour un miracle ?
Eh ben, c'est ça qui est assez étonnant. On croyait qu'on venait pour le miracle, ouais. Et puis on s'approche de Lourdes et on se rend compte que le miracle est une petite affaire dans l'affaire. C'est qu'ils viennent, pour être touchés. Mais je dirais presque, pour les malades, c'est pour être touchés physiquement. C'est que, où les gens qui sortent d'EHPAD, qui ont une douche par semaine, ils ont du jour au lendemain des bénévoles, des gamins, assez maladroits, parce qu'ils n'ont jamais fait ça, qui dès le matin, les lèvent, les peignent, les lavent, les dorlotent, les emmènent, les trimballent, les ramènent. Donc il y a déjà un rapport comme ça.
On assiste d'ailleurs à ces réunions de préparation où on prépare ces jeunes à pouvoir accompagner et
là,
toucher ces malades.
Et là, ça marche dans les deux sens. Ouais. C'est que même les, on voit bien les hospitaliers prennent un vrai plaisir à dépasser leur appréhension et leur... C'est d'ailleurs, le film est un peu construit comme ça, c'est qu'on arrive, on voit les bus débarquer, on se dit mais comment on va se débrouiller nous à l'image et le spectateur avec ces corps abîmés, ces corps cabossés.
Oui, vous teniez volontairement à les montrer dès le départ pour que ça crée un choc auprès du spectateur, Alban Turley.
Mais ils viennent, juste pour compléter ce que dit Thierry, ils viennent aussi pour être regardés. Et
Comment ça, ils viennent pour être regardés? Touchés, ça, j'ai bien compris, mais regardez.
La petite Bernadette Soubirou, qui affirme avoir vu la Vierge en 1858, a dit, elle m'a regardé comme une personne. Et les gens viennent à Lourdes pour être regardés comme des personnes.
Et donc, vous avez fait la même chose avec votre film.
Exactement.
Ouais. À tel point que les gens disent, comment vous avez fait pour filmer? Mais lorsqu'on était dans une chambre, il y avait la chambre d'à côté qui criait en disant, mais pourquoi vous venez pas nous voir? Donc,
Non, mais vous savez, les gens sont prêts à tout pour passer devant une caméra. Benoît Lagan le sait bien, il passe en France 2. Il chante son Jésus à lui. Johnny Cash revient dans le NRV.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Personnel Jésus, un titre de Dépêche Mode, une version de Johnny Cash. La programmation est spirituelle ce soir pour Jean-Baptiste Audibert.
Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin.
Donc demain matin, tu te rappelles, on se lève à 6h.
France Inter.
Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route n'a pas été trop longue?
Non.
Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans.
Laurent Goumard.
Quand on a la foi, on dépasse les montagnes.
Le NRV La Suite part en pèlerinage pour Lourdes à l'occasion de la sortie du film documentaire Demain, Lourdes. On entendait à l'instant un écho de la bande-annonce avec pour en parler les deux réalisateurs du film, Thierry de Mézières et Alban Turley. À leur côté, le frère Franck Dubois et le journaliste Samuel Pruvot. Une petite question d'ailleurs sur le choix de l'ouverture. Vous ouvrez le film sur Isidore, un homme très pieux, travesti, qui se prostitue au bois de Boulogne. Pour quelle raison teniez-vous à ouvrir par ce véritable personnage, Alban Turley?
On ouvre le film sur des mains qui touchent le
chorégraphie,
le rocher.
Le premier personnage, le premier personnage qui apparaît, c'est lui.
Parce qu'Isidore, comme d'autres personnages du film, démarre par une prière, et on a trouvé que ce qu'il demandait, la façon dont il posait sa voix, nous permettait de rentrer dans le film de façon très très douce, énigmatique, et d'ouvrir ensuite sur des trajectoires beaucoup plus très très différentes de la sienne.
Qu'est-ce qu'il demande en fait?
Isidore est travesti au bois de Boulogne et demande au Seigneur et à la Vierge de l'aider à s'en sortir. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va à Lourdes chaque année.
Et frère Franck Dubois, c'est pour ça que les personnes qui vont à Lourdes cherchent moins le miracle que se sortir de quelque chose de personnel, ou c'est beaucoup plus complexe encore que ça?
Moi, je reviendrai sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est très juste de dire qu'ils vont là aussi pour qu'on les touche, qu'on les regarde de façon digne et pour qu'on leur redonne leur dignité. L'espace de cette semaine, la Vierge dit à Bernadette, Bernadette dit de la Vierge, elle m'a regardé comme une personne. C'est le sentiment, je pense, qu'ont beaucoup de personnes à Lourdes, qu'elles soient d'ailleurs malades, handicapées ou pas, parce que vous y faites allusion dans le film. Il y a plein de gens qui portent des choses, des blessures intérieures qu'on ne voit pas. En gros, personne ne va à Lourdes par hasard, quand même. Dans les hospitaliers, quand on commence à les écouter 2 minutes, on se rend compte qu'eux-mêmes, et qui n'en a pas, ont des vies blessées. Je pourrais vous dire la même chose que les frères dominicains qui y vont, les prêtres qui y accompagnent. D'ailleurs, ça sort dans votre film, vous interrogez un prêtre qui vous dit aussi que c'est dérangeant de fréquenter des personnes handicapées. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de vérité qui peut s'exprimer à Lourdes. Et encore une fois, de dépouillement, mais le truc pour que le dépouillement puisse se dire, se voir, c'est que le lieu soit plein de bienveillance, quoi. Et Lourdes, c'est ce lieu de bienveillance extrême. Et du coup, des ponts sont possibles sur le Gave, qui traverse le fleuve qui traverse Lourdes, mais entre les gens, des gens qui devraient pas se rencontrer. Voilà. Lieu possible comme ça, c'est un miracle. Le miracle, c'est ça, c'est la rencontre et la bienveillance.
Dans le magazine Famille Chrétienne, il y a un article sur vous et vous dites que vous avez découvert les grands malades de Lourdes presque en même temps que votre vocation, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que quand on est dominicain, on reçoit l'habit, c'est-à-dire qu'on devient frère et un mois après, on nous envoie à Lourdes en pèlerinage avec
tous les. Ah, tout de suite.
C'est-à-dire avec tout le monde, hein. Donc on a l'habit et les gens savent pas parce qu'on a tous le même habit. Là, j'ai un petit col romain, mais on a un bel habit blanc, sinon, qu'on porte à Lourdes, qui nous distingue pas les uns des autres. Les frères qui ont 20 ans de carrière et puis les petits jeunes qui arrivent. Et donc, on se prend des gens qui nous prennent pour Dieu sur terre et en fait, on sait qu'on n'en est pas digne. On se prend des confessions, on n'a pas le droit de confesser, donc on leur dit non, mais vous pouvez me raconter votre vie, mais je vais pas vous donner l'absolution. Et on se prend comme moi, Jean-Louis, dont on parle dans le film, qui est la première rencontre que j'ai faite à Lourdes, qui est un malade qui peut pas s'exprimer avec des mots, avec la parole, mais qui s'exprime seulement avec ses mains. qui pointe les lettres de doigt sur les lettres d'un alphabet qu'il a sur sa petite tablette. Et moi, on me l'a confié un peu par hasard, une hospitalière sympa, Hortense, très comme on en fait à Lourdes, pleine de vie, qui rigole. Allez, tu peux t'occuper de Jean-Louis 5 minutes. Et en fait, elle me l'a mis 2 heures entre les mains. Et moi, au début, je commence à lui parler et il me répond pas. Et en fait, il me répond, mais d'une façon que je pouvais pas comprendre. Et en fait, ce gars-là, en un mot, il m'a appris à parler. Voilà. Parce que je pouvais plus le prendre de haut, je devais m'agenouiller, être à ses côtés et comprendre comment il s'exprimait. Et depuis 15 ans que je vais à Lourdes, 17 ans, je le retrouve tous les ans. Et ce que je voudrais dire aussi, on vient à Lourdes pour être regardé, pour être touché, mais pour se marrer. Et dans le film, vous avez chopé ça, notamment moi et Jean-Louis, mais pas que. Et je lui dis, allez Jean-Louis, mais lève-toi, quoi. Et, mais parce qu'on ose dire ça, enfin, c'était bah évidemment plein de bienveillance. Je l'aurais pas dit à un malade que vous voyez, il est en fauteuil. Mais il y a ça aussi. On ose se marrer. Voilà.
Quelque chose que vous avez vécu, Thierry Desmézières ?
Ah bah, ils ont besoin de décompresser aussi. Ouais. C'est qu'il y a quand même une jeunesse qui vient là pour se lever tôt le matin et aider les malades et qui le soir a besoin de picoler. Et nous, c'est ce qui nous a plu d'ailleurs et stupéfait, c'est que les bars sont pleins. Je vous raconte pas ce qui se passe pendant le pèlerinage des militaires, où il y a les militaires du monde entier qui se retrouvent.
On n'y est pas. Hein.
Et alors là, c'est...
C'est quoi ?
Ah ben, bah, c'est la fête jusqu'au petit matin. Ils font pas la guerre, là. Ils ont l'occasion de voir des militaires du monde entier, peut-être de pays ennemis, et ils font la fête, voilà.
Quand ils font la fête, ça veut dire quoi ? J'ai l'impression que c'est un nouvel épisode de Rocco que vous êtes en train de nous...
Ah, je sais pas ce qui se passe dans les chambres, mais en tout cas, je sais ce qui se passe dans les bistrots.
Aventurer ?
Non, on a assisté qu'à des chansons paillardes.
Bon, c'est déjà ça. Ouais. Généralement, ce sont les prémices. Parmi tous les témoins, tous les témoins, tous les malades, toutes les personnes qui sont présentes dans le film, laquelle vous a plus particulièrement touché, Samuel Prévost ?
Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Thierry l'a évoqué, c'est Jean d'Artigues. En fait, il est atteint de la maladie de Charcot. C'est une terrible maladie dégénérative, en fait, qui vous paralyse peu à peu. Lui, il est atteint depuis 8 ans, donc aujourd'hui, en fait, seul son visage peut encore bouger. Et dans le film, il intervient, mais je dis bien, en fait, dans le film, je trouve qu'il n'y a pas de témoignage. Je pense que c'est un documentaire. On lui a pas tendu le micro en disant, bah, Jean, tu nous dis quelque chose. Et il a une capacité rare, non seulement à parler et à être compris de tous. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas le vocabulaire de la sacristie. Et ça me semble capital. Parce que je fais juste un détour. Là, c'est le chrétien, le catholique qui parle. C'est pas normal que quand les catholiques parlent, ils soient pas compris. C'est pas la faute de ceux qui comprennent pas, c'est la faute des catholiques qui vont parler un langage à eux. On peut le faire ça quand on est dans la même profession, mais catholique c'est pas une profession, c'est pas. Et du coup, Jean, il parle un langage tout à fait universel. Il parle de sa propre souffrance et on sent bien qu'il parle de cette échéance, de cette épée de Damoclès qui est juste au-dessus de sa tête, qui peut tomber le soir même, parce qu'il est sous assistance respiratoire maintenant perpétuelle, donc en fait, il peut s'arrêter de respirer à tout instant. Et quand je l'ai rencontré il y a à peine 2 semaines, je me disais, mais mince, peut-être que demain, il sera pas là. Et il est capable de parler de cette échéance, donc de sa fin, de sa propre mort, je dirais pas du tout avec un détachement, mais avec un réalisme qui vous retourne complètement. Et quand il vous dit, moi je profite de chaque instant parce que ça peut être le dernier, on se dit, mince, mais moi aussi ça pourrait être mon dernier instant, et qu'est-ce que je gaspille comme instant. Et justement, c'est bien ces émissions où on parle, non pas pour ne rien dire, mais pour dire des choses importantes, parce qu'on gaspille tellement le temps qui nous est donné.
Alors on voit aussi des images inouïes, des images qu'on n'avait jamais vues auparavant.
Oui, parce que jamais des caméras de cinéma n'étaient entrées dans ce lieu que vous filmez, ces piscines où on voit, et c'est à la fin du film, on voit plusieurs de vos personnages entrer dans l'eau froide. Comme ça, c'est la première fois que vous avez, jusqu'à présent, aucune caméra n'avait été autorisée.
Dans le sanctuaire de Lourdes.
Dans le sanctuaire de Lourdes.
Pour un film documentaire cinéma, non. Faut préciser ce qu'on appelle les piscines. Sont donc des
baignoires,
des bains avec une eau, je crois, à 12 degrés, pour lesquels les gens font la queue pendant parfois plusieurs heures et être baignés pendant quelques secondes face à une représentation de la Vierge.
Il a fallu parlementer, j'imagine.
Il y a eu des réticences, des tractations, des pots de vin
avec les autorités.
Alors les autorités, il faut être très Thierry clair. Nous, lorsqu'on a présenté le projet, ils ont été enthousiastes dès le départ. Ah et ouais. Puis après, il y a eu un petit recul lorsqu'ils ont vu notre filmographie et qu'ils ont vu Rocco. D'un seul coup, on a eu un coup de fil de la communication de Lourdes en nous disant que
les valeurs étaient pas forcément les valeurs de l'Église. Voilà.
Alors même que le film de Rocco est quelque chose sur la culpabilité, on
c'est
en a parlé hors micro, véritablement.
C'est ce qu'on leur a dit.
Sur la faute, la culpabilité.
Il y avait Marie-Madeleine. On leur a expliqué pourquoi on allait exclure l'actrice porno. Voilà. Et c'est là où les catholiques sont ouverts. Ils nous ont dit, vous avez raison. Et non seulement, et à partir du moment où tout s'est ouvert, mais qu'à un moment, on leur a dit, mais nous, si on veut vraiment filmer un moment très fort, il faut qu'on puisse filmer les piscines. Et ils nous ont dit, OK, dans des conditions particulières, on les a...
C'est-à-dire
En dehors de... Nos trois personnages ont pu faire leur bain en dehors des heures d'attente pour qu'il n'y ait pas d'autres corps filmés.
Et avec une équipe extrêmement restreinte. Voilà.
Combien vous étiez pour le tournage à ce moment-là?
Alors, dans la piscine, j'étais tout seul à l'image avec Emmanuel Guionnet au son. Et effectivement, ils avaient peur peut-être qu'on franchisse une barrière de la pudeur parce que c'est un bain qui se passe nu, simplement avec un drap posé sur le corps. Donc, il a fallu qu'on prenne le temps et qu'on fasse extrêmement attention à la limite à pas franchir pour pas non plus les gêner dans ce moment capital du pèlerinage.
Et intime.
On va se retrouver pour la troisième partie du Énervé dans quelques instants. On va repartir du côté de Lourdes. Bienveillance, c'est signé Canins. Bienveillance est aussi une des valeurs de votre film Lourdes, Thierry de Mézières et Alban Terlet. On y retourne.
Rendez-vous.
Un siècle et demi après qu'une jeune paysanne a dit voir la Vierge dans sa grotte, Lourdes est ainsi devenue
l'un des premiers lieux de pèlerinage de la planète.
Le nouveau rendez-vous,
2,2 millions d'euros de donations. Le sanctuaire ne vit que de cela.
Laurent Goumard.
Comme toute entreprise, on développe des outils marketing.
Rappelons que le spectacle commence le 1er juillet prochain.
L'histoire de Bernadette, moi je trouve que c'est un film à l'américaine.
Sur France Inter.
C'est magnifique. Lourdes, c'est un documentaire sublime qui sort demain en salle. Ce sera une comédie musicale à partir du mois de juillet. Ça promet, on en a entendu un extrait, hein, c'est ça, hein,
Benoît Lagan. Oui, c'est signé par Lionel Florence et Patrice Guirao qui ont fait notamment les 10 commandements. Les textes, chansons seront aussi composées par Grégoire, le chanteur de Toi et Moi. Voilà.
Ça promet, vous irez?
Ben, on verra voir. On ira voir.
Thierry de Mézières et Alban Teurlet, vous ne souhaitiez pas trop montrer l'aspect commercial, même si vous avez filmé bien sûr des séquences quand même, notamment dans un magasin, pour ne pas réduire Lourdes aux rues commerçantes, une image qui est traditionnellement tenue hein, par les médias. Pour autant, c'est une réalité. Je me suis demandé quel était le modèle économique aujourd'hui de Lourdes, frère Franck Dubois.
Qui n'est pas du tout spécialiste du modèle économique de Lourdes, mais on a entendu tout à l'heure, c'est un sanctuaire qui vit des dons, bien sûr, des pèlerins qui viennent et de personnes qui jugent que c'est important que le sanctuaire puisse vivre et lui donne le moyen de vivre, qui vit avec un train de vie très modeste, avec on en voit un peu dans le film, mais c'est évidemment pas votre focus, avec un certain nombre de salariés. Il y a des bénévoles, mais il y a aussi quelques salariés qui font leur travail de façon...
Ce sont 330 salariés, je crois. Hein.
Vous avez les chiffres que j'ai pas, mais...
Selon le Figaro.
Mais en tout cas, voilà, qui sont très dévoués à la cause, qui est simplement l'accueil de ces personnes. C'est les plus fragiles au centre, hein, à Lourdes, donc c'est vraiment un accueil très personnalisé. Mais c'est la générosité. Donc, dans les hauteurs de Lourdes, il y a ce qu'on appelle la Cité Saint-Pierre, qui a été fondée, qui a un accueil spécifique pour des personnes qui en grande précarité, disons, qui fonctionnent avec le Secours catholique. L'idée étant vraiment que tout le monde puisse venir là. Et ceux qui sont au cœur du film et au cœur des sanctuaires, c'est-à-dire les plus fragiles, les plus pauvres, les plus malades.
Mais le sanctuaire était dans le rouge pendant quand même pas mal d'années, pendant 10 ans. Pourquoi aujourd'hui c'est revenu à l'équilibre? Qu'est-ce qui s'est passé, Samuel Pruvot?
Alors, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste, mais une chose est certaine, c'est comme les comptes étaient dans le rouge, il y a une idée de, allez, disons, rationaliser les choses et les dévotions. Alors, les dévotions restent les mêmes, mais une des sources de revenus à Lourdes, ce sont les cierges, parce que des cierges, on n'en met pas un, mais il y a beaucoup de pèlerins et les pèlerins en mettent non seulement un, mais plusieurs. Et du coup, tout a été, si j'ose ce mot, relooké. Et il y a en fait des chapelles de lumière qui sont maintenant en face de la grotte. Et tout ça est mieux organisé. Et du coup, les dons et les cierges brûlent plus. Alors ça paraît rien, mais en fait, c'est carrément, je crois, hein, de mémoire, la moitié de l'économie de Lourdes. Hein. Lourdes sans cierges, c'est la ruine.
Alban Teurlet.
J'ai aucune expertise là-dessus.
Non, mais personne n'a aucune expertise, manifestement.
Mais vous avez tous observé.
Les extraits qu'on a entendus font pas partie
du film. Non, ça n'a rien à voir.
Voilà. Il y a ni chanson dans notre film, ni sonore, ni interview.
Mais c'est pas du tout ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous étiez inquiet, hein, qu'on puisse croire que c'était votre documentaire. Oui. Qu'on trahisse votre film.
C'était justement pour montrer l'opposition
entre le sublime et les marches du temple.
Sur Lourdes, c'est que il y a de plus en plus de pèlerins individuels qui viennent et de moins en moins de pèlerinages constitués comme ceux que vous avez suivis. Et je pense que c'est intéressant parce que ça correspond quand même à une demande clairement de gens qui veulent se retrouver dans des lieux où en fait, passez-moi l'expression, on leur fiche la paix, où on leur donne la paix, et donc ils veulent se retrouver là, seuls avec la Vierge, seuls devant la grotte, pas forcément aller aux grandes célébrations, aux messes, ou pourquoi pas si tout d'un coup ça leur prend. Ça c'est difficile à gérer pour les sanctuaires parce qu'ils étaient plus habitués à gérer les grands pèlerinages de masse. Mais on doit faire face à un éclatement du pèlerin et répondre à cette demande. Et en France, il faut savoir qu'il y a beaucoup de petits sanctuaires un peu partout. Et je sais que depuis un an, pas mal commencent à avoir plus de pèlerins aujourd'hui qu'ils n'en avaient naguère, mais beaucoup d'individuels. Parce que les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin de poser leurs valises, de lieux pour respirer. Voilà.
Pourquoi vous avez justement traité ce sujet aujourd'hui? D'après vous, Thierry de Mézières, qu'est-ce qui s'est passé dans votre regard de documentariste, de réalisateur, pour s'intéresser aujourd'hui à Lourdes?
Le hasard absolu.
Ah oui, d'accord.
Le hasard absolu,
vous avez vraiment le nez creux.
Non, on avait fini Rocco, une amie passe
déjeuner et je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière, et elle a du mal à le dire, donc j'insiste et elle dit bah on était avec mon mari, on était hospitalier à Lourdes. Donc je lui dis bah, non mais raconte, et déjà la difficulté qu'elle avait à le dire.
Ah oui, comme si elle avait une sorte de honte, ou pas, oui, pas de honte, mais non, on sait les a priori.
Voilà.
Ah d'accord.
Okay. Les gens à Lourdes savent les a priori, une sorte de.
Donc si elle était allée au Cap d'Agde, vous seriez au Cap d'Agde pour le film. C'est ça que vous voulez me dire?
Non,
c'est ce hasard absolu.
Bah alors, il est fort possible que le Cap d'Agde soit un très bon sujet.
Ah, c'est un sanctuaire. Hein,
ouais, et une mise à nu.
Une mise à nu aussi. Et par rapport à l'image qu'on montre à la télévision habituellement, il y a un sacré boulot aussi.
Sur le Cap d'Agde.
Oui, sur le Cap d'Agde.
Non, mais pour venir là-dessus, elle en a quand même parlé. Elle en a parlé de façon assez convaincante pour qu'on se dise, Alban et moi, tiens, nous qui sommes des portraitistes, il doit y avoir une galerie de portraits absolument incroyable à faire. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur Google pour voir le nombre de documentaires qui avaient été faits pour l'un des plus grands pèlerinages au monde, et dans une grande stupéfaction, aucun.
Aucun, aucun.
On n'en revenait pas.
Ce qui est intéressant, ce que disait le frère Franck Dubois, c'est l'histoire de ces pèlerinages organisés qui sont moins présents aujourd'hui. J'ai des chiffres, je crois que c'est moins de 34% de pèlerinages organisés en 10 ans, ce qui est pas énorme. Vous suivez, on vous voit dans le train, enfin, vous filmez dans ce train de pèlerinage. Pourquoi ces pèlerinages organisés? C'était plus difficile de capter justement ces pèlerins volages?
Tout est difficile. C'est des millions de personnes. Il faut extraire des histoires de ces millions de personnes. Donc, si vous allez vous passer une année et vous allez faire quoi comme ça dans la rue? Donc évidemment, on a travaillé avec ceux qui avaient anticipé la chose, à savoir les pèlerinages, les diocèses. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec les diocèses. Mais par exemple, les gens qui sont du Secours catholique sont effectivement avec le Secours catholique, mais ils sont seuls dans Lourdes à se promener. Ils vont d'ailleurs une chapelle à un moment où ils sont seuls dans la chapelle. Donc il y a même au sein des groupes des gens qui s'échappent et qui vivent leur pèlerinage seuls.
Ça coûte cher, un pèlerinage à Lourdes?
Alors ça doit dépendre des diocèses. Non, je suis désolé, je suis pas capable de répondre à cette question. En tout cas, la chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas de chrétien dans un diocèse qui désire vraiment coûte que coûte y aller et qui ne trouve pas une aide. D'ailleurs, ce qui est intéressant et très émouvant, c'est que un des Serge, qui est le papa donc d'une des malades qui figure dans le documentaire, on voit qu'il économise justement toute l'année pour pouvoir s'offrir non pas un voyage aux Seychelles, mais un pèlerinage à Lourdes et l'offrir à sa fille.
Oui, il dit que désormais il n'a plus ses indemnités à Cédic et donc il ne va pas pouvoir accompagner cette fille cette fois comme tous les ans il le faisait auparavant.
Exactement.
À Lourdes.
Donc du coup ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr que c'est un investissement et surtout pour les personnes modestes, mais ce que je veux dire là c'est que dans le système des diocèses qui sont souvent d'ailleurs pas loin de la ruine, il y a une péréquation financière qui est très 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 réelle parce qu'on ne peut pas non plus dire entre guillemets, j'aime pas ces mots, est-ce que vous allez pas aimer Thierry Alban, on aide son prochain, on aime son prochain, mais on lui donne pas un euro. Non, sincèrement, il y a un minimum de cohérence dans l'Église. Si on aime son prochain, on ouvre son porte-monnaie.
Thierry Lemézière et Alban Sterlet, justement, sur cette dimension.
Il y a eu justement ces gens-là. On a montré le film à Valenciennes, ils étaient dans la salle et à la fin de la projection, les gens ont fait la quête pour qu'ils puissent retourner à Lourdes. Et puisque vous parlez argent, nous avec Alban, ce qui nous a le plus frappé, c'est que les bénévoles et des gens souvent très très simples donc donnent une semaine de leurs vacances pour Lourdes et paient leur hôtel et paient leur train.
Ça force le respect, ça, Alban Sterlet.
Non, on s'y attendait pas, mais pour rebondir là-dessus sur les bénévoles... Ouais. C'est aussi pour ça qu'on s'est penché sur ce lien qui unit bénévoles et malades, parce qu'on pensait nous ne filmer que des corps un peu cabossés, des destins un peu abîmés. Et la surprise, c'est qu'effectivement, on a découvert ce lien incroyable qui se tissait entre ces gens, parfois très jeunes, qui se quittent d'ailleurs à la fin du pèlerinage en larmes. Et ça nous a frappé.
Est-ce que les autorités ont demandé à regarder le film avant qu'il ne sorte en salle? Non.
Non.
Est-ce que vous-même vous vous êtes auto-censuré?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
On ne voit que tout ce que vous avez voulu montrer.
Il n'y a pas censuré. Là, il y a le fameux débat sur la rue Marchande. Moi, je le trouve limite indécent. D'une part, si on veut savoir des choses sur la rue Marchande, c'est le marronnier des émissions de télévision. Donc, ils abordent Lourdes que par ça. Et je trouve que c'est un peu méprisant par rapport à ces pauvres gens qui ont besoin de s'acheter effectivement une gourde avec de l'eau bénite avant de partir. Voilà.
Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci frère Franck Dubois. Merci Thierry Demézière et Alban Sterlet. Le film Lourdes sort demain en salle. Samuel Pruvot, l'hebdomadaire Famille Chrétienne, consacre un dossier d'ailleurs au film. Et je rappelle que votre livre 2017, Les candidats à Confesse, est toujours disponible aux éditions du Rocher.
awkward silence, which can hurt the most, which can cause the distance between two people once so close. We were so close. But the memories have all faded, just like they always do. We grew up and grew apart, found other dreams.
All This Time, après tout ce temps, le folk intimiste du Britannique Michael Chapman pour clore ce énervé, car oui, le nouveau rendez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette année, hein, je le répète, chaque jour, vous le savez, ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast, ou alors vous avez la version plus classique, 22h minuit, à l'antenne, comme tout le monde. On reste en lien et on compte sur vous sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag énervéfi. Marion Lelay et Juliette Medeviel à la réalisation, Virginie Rouzic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Gaëtan Lévy, ça c'est pour la préparation. À la technique ce soir, on retrouve Gilles Gaillard et Michel Bézikian. Demain, on se retrouve et on sera là avec ça.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Marijuana, le bon marché du conjoint, ce sera dans le Énervé la suite. Et en première heure, les femmes montent au front avec Martine Laroche-Joubert, reporter de guerre, et Yolande Zoberman en terrain miné chez les ultra-orthodoxes de Tel Aviv. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.